Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le Programme. Les rencontres d'Edmond Morel.
Pierre Mertens, en 2009, sont publiés deux ouvrages qui rassemblent dans un seul volume des textes qui avaient été publiés séparément par ailleurs. L'un, un recueil d'essais, l'autre, une suite romanesque, Paysage avec la chute d'Icare, paru aux éditions du Seuil. Une préface écrite par Pierre Mertens aujourd'hui évoque l'écriture de ce jeune écrivain Pierre Mertens qui avait 30 ans lors de la publication. Comment avez-vous abordé l'œuvre du jeune Pierre Mertens ?
Disons que l'Inde ou l'Amérique procède d'une espèce de volonté de faire un bilan d'une enfance qui a été quelque peu chamboulée, qui a été errante, bousculée, cachée, comme on dit, mais cachée à plusieurs reprises et dans des endroits différents et à des époques différentes. Et à un âge où je ne pouvais pas soupçonner que toute enfance ne ressemble pas à celle-là. C'est-à-dire que pour moi, avoir une enfance cachée me paraissait la condition de l'enfance par excellence. Ce n'est qu'après la guerre, en quelque sorte, que j'ai appris qu'il y avait d'autres façons de la passer. Donc, quand on n'a jamais connu que la guerre, on peut très bien imaginer que le monde sera en guerre toujours, que c'est sa façon d'être, que c'est dans la nature des choses. Et donc, j'ai vécu ça à la fois, c'est vrai, parfois dans l'angoisse, puisque les menaces étaient constantes. Les mises en garde de la part des proches l'étaient tout autant. Mais je dirais que le côté féerique de l'enfance était présent tout autant. Donc finalement, on passait un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans la même journée. On vivait dans une espèce de western spectaculaire où le péril ou le risque encouru apparaissait moins flagrant que la beauté des choses. Mais tout cela crée une espèce de climat prodigieusement ambigu. Et qui fait que, très souvent, quand je me suis mis à lire des livres d'enfance, enfin des livres sur l'enfance, j'ai été choqué par leur côté un peu mièvre, un peu sucré, je dirais un peu guimauve, un peu vert paradis des amours enfantines, et j'ai d'ailleurs toujours détesté l'expression, bien que Baudelaire, à mon avis, ait été beaucoup plus loin par ailleurs, puisque le même homme a dit que le génie n'était que l'enfance nettement formulée. C'est beaucoup plus fort, à mon avis. Je crois qu'il pensait à Schubert, en fait.
C'est une phrase qui figure dans la préface, oui, d'ailleurs, qui est une phrase fulgurante.
À lui rendre justice, parce que je crois que c'est profondément vrai. Enfin, je crois qu'un écrivain qui retient l'attention, c'est quelqu'un qui a préservé en lui cette part d'enfance sacrée et dont il... Qui ne le laissera jamais au bord de la route. Quoi.
L'allusion est faite aussi dans la première préface de l'édition, Pierre Gascard, qui dit que sans avoir vécu une enfance dont on sort difficilement, on n'est pas écrivain.
Voilà, je crois qu'effectivement, il y a ceux dont l'enfance se révèle une maladie incurable, puis il y a les autres. Oui. J'espère ne pas appartenir aux autres.
Alors, le roman L'Inde ou l'Amérique, le personnage central s'appelle Julien Delmas.
Non pas Christophe Colomb, comme on pourrait le croire. Je me suis simplement inspiré en quelque sorte de cette fable instaurée par le grand conquistador qui, partant pour un pays, finit par en découvrir un autre au prix d'une fâcheuse, en fait de quelque chose qui aurait pu être une malencontreuse erreur de navigation, qui se révèle en fait providentielle, puisque c'est grâce à cette erreur qu'il va trouver un monde... Je dirais même qu'il l'invente. Et à mon avis, c'est une parabole parfaite autour de ce que c'est qu'une vie humaine en général. Je crois que nous venons tous au monde en engrangeant très vite un certain nombre d'impressions, en faisant des présupposés sur ce qui nous attend. Et puis ça se passe tout à fait autrement. Et seul l'imprévisible arrive, comme disait l'autre. Et alors, je dirais presque qu'à plus forte raison, pour un artiste, il en va surtout de cette manière, puisque... On prévoit de faire un livre, on prévoit de faire une symphonie, on prévoit de faire un tableau, et l'œuvre toujours vous détourne, dérive ailleurs, et c'est grâce à ça qu'elle existe. Parce que si on remplissait tout à fait son programme, je crois que ce serait une aventure au fond affreusement banale et routinière.
Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, je vous le propose parce que c'est une sensation qui m'est venue en lisant le livre, que la parabole de l'Inde ou l'Amérique est aussi une métaphore du roman, puisque le lecteur va relire, va réinventer l'Amérique que vous pensez avoir découvert.
Oui, je crois que c'est sans fin, c'est-à-dire que ce que l'écrivain propose, racontant au fond son errance et son exploration, puisqu'il découvre en quelque sorte l'univers en même temps que son lecteur. Le lecteur idéal est celui qui a la limite, mais c'est pas dans ceux de l'écrivain, et qui choisit de prendre son sillage et donc de découvrir presque en même temps que lui, en temps réel, entre guillemets, les trésors et les horreurs du monde ambiant.
Ou le lecteur, on peut dire aussi qu'il réécrit le livre. Oui. Alors là, je reviens à ma première question que vous avez un peu esquivée. Le lecteur Pierre Mertens, aujourd'hui, qui lit le Pierre Mertens de 30 ans, qui publie son premier roman, qui a le prix Rossel d'ailleurs, à l'époque, L'Inde ou l'Amérique, comment l'a-t-il relu pour la publication de cette trilogie ?
Ben, c'était pas sans appréhension. Hein, je peux dire que quand la chose m'a été proposée, forcément, j'en étais à la fois très touché, et en même temps, je me disais, est-ce que c'est vraiment la chose à faire ? Comment ça va-t-il se passer ? Et alors, je dirais que j'ai réussi à prendre assez de distance par rapport à l'homme que j'étais à l'époque pour le lire avec, comme un vrai lecteur. Finalement, on n'est pas tout à fait son propre vrai lecteur. On est évidemment forcément un peu au parfum. On est, le monstre qu'on porte en soi est apprivoisé. Mais... Mon Dieu, le livre m'a étonné parce qu'il y avait certains de ces aspects qui m'étaient devenus, sinon inconnus, du moins un peu opaques, chargés de mystère. Je crois que c'est l'admirable Nabokov qui disait « Un grand romancier ne cherche pas le fin mot de l'énigme comme un auteur de polar, mais il tourne le fin mot en énigme ». Ce qui fait que je crois que, moi c'est vrai pour tous les romans que j'admire, quelque part, on en sait un peu moins à la fin qu'au début. Plus exactement, on est plus chargé de questions que de réponses. Et je crois que c'est un peu le cas ici. Le petit Julien Delmas découvre le monde de façon bien insolite, puisque c'est à la limite au terme d'une espèce d'exil forcé et de disgrâce qu'il fait vraiment connaissance avec soi-même.
L'exode pour l'enfant Julien a été finalement une première naissance à l'enfance.
Tout à fait, voilà. Je crois que c'est admirablement dit, je crois que vous avez totalement raison, je crois que son exode commence au moment où il tombe en quelque sorte du ventre de sa mère, et puis ça ne s'arrête plus. Et au fond, on ne peut plus dater l'exode quand on est un enfant, on ne sait pas ce que c'est que la guerre, c'est totalement abstrait, même si les adultes vous en parlent. Mais la guerre est un continent en soi qu'il s'agit d'explorer comme le reste. Et cet exode, à la limite... Et vous l'avez lu, et puisque vous avez lu La Fête des Anciens, cet exode ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il est toujours à refaire. Il ne connaît qu'une suite d'épisodes récurrents qui le transportent toujours ailleurs. Et jamais il s'arrête, parce que jamais il a vraiment l'impression d'être chez lui. Il est toujours chez lui ailleurs. Et donc il est toujours en marche. Et au fond, ce qui pourrait aussi être une mésaventure devient une aventure, tout simplement.
Il y a autour de l'exode et peut-être aussi du sentiment d'abandon, une infinie tendresse qu'inspire Julien, même si c'est un petit garçon, puisque dans l'Inde ou l'Amérique, il est petit garçon, qui est turbulent, qui est bagarreur. Oui. Mais en fait, il cherche à comprendre le monde.
Oui, voilà, il est inlassablement curieux. Il est comme un innocent qui écarquille fort les yeux. Il a une grande qualité, à mon avis, s'il faut lui en reconnaître une, c'est qu'il ne se laisse pas facilement abuser par les réponses fallacieuses qu'on lui offre autour de lui. Il est chargé de questions, il est bourré de questions jusqu'à la gueule. Il n'arrête pas d'en poser et il sent bien que la plupart du temps, on esquive, on escamote, on enjolive, on révisionne. En fait, c'est une dénonciation du révisionnisme. Je crois que le négationnisme dans la vie, on s'y confronte tout de suite, et puis que ça ne s'arrête plus. Parce que parfois des gens, je dirais presque portés par les meilleures intentions du monde, mais l'enfer lui-même en est balisé, finalement, pour vous faciliter la vie, vous raconte des balivernes, et lui ne s'en satisfait pas. Quand on lui ment, il le sait tout de suite, il réagit comme un sismographe, quoi. Et donc, il est dans sa tentation et sa tentative de captation du monde comme quelqu'un qui cherche à voir clair dans tout ça, qui sent qui sent l'univers pas seulement comme hostile, il l'est souvent, il l'est parfois en tout cas, mais aussi comme chargé de secrets qu'il s'agit un peu d'élucider pour s'y retrouver. C'est une grande jungle et il faut la traverser à la machette, quoi.
On peut dire qu'un roman, une œuvre romanesque est disons, articulée autour de lieux, de temps et de personnages. Mm-hmm. Dans le cas de l'Inde ou l'Amérique, finalement, vous n'avez plus besoin de situer l'époque non. dans laquelle elle se trouve, puisque les lieux suffisent à dire
et
une sorte
d'exemple. Pour un enfant, ça ne sert à rien de lui dire qu'il vit dans telle province ou qu'il vit à telle époque. Pour lui, l'époque, c'est l'éternité. Il croit qu'il a l'éternité devant lui. Donc, à quoi ça vous... Hein, pourquoi lui donner des points de repère qui, à ses yeux, sont complètement artificiels et abstraits? Donc, il ne sait pas à quelle époque il vit, il ne sait pas dans quel pays. Le pays n'est pas nommé. Ça pourrait d'ailleurs être un autre que celui auquel, inévitablement, nous songeons, parce qu'il peut ressembler à n'importe quel autre, en tout cas à beaucoup d'autres. Et l'époque aussi. Il s'agit d'une guerre, mais ce n'est pas forcément la dernière. Ça peut être une autre aussi. Ou une guerre complètement imaginaire, ou imaginée par l'enfant qu'il est, complètement inventé.
C'est vrai que si à cette réédition on n'avait pas mis votre nom, mais on avait mis un pseudonyme, on aurait pu se dire que l'histoire de cet enfant est devenue universelle parce qu'elle aurait pu se situer dans un pays n'importe où dans le monde.
Je crois qu'un Tchèque aurait pu l'écrire, quelqu'un né à Varsovie, à Cracovie ou en Bohême. Je verrais plutôt une enfance de l'Est qu'une enfance de l'Ouest, bizarrement. C'est à l'évidence pas une enfance américaine. Ce n'est plus que probablement pas même une enfance anglo-saxonne, mais elle n'est pas non plus italienne. Moi, je le dirais, c'est une enfance d'Europe centrale, sans détermination précise et sans pédigré.
Oui, on imagine aujourd'hui en guerre de Yougoslavie que...
Voilà, je crois que des scènes pareilles pourraient absolument surgir.
Alors, le roman, L'Inde ou l'Amérique... décrit quelques années de la vie, de formation.
Comme je dis aussi, de désapprentissage. Puisque, j'ai été toujours frappé par l'expression un peu toute faite comme ça, et qui est un peu creuse quand même. Roman de formation, roman d'apprentissage. Moi, je dis au fond, j'ai envie d'écrire un roman de désapprentissage, puisqu'il ne retient pas les leçons un peu hypocrites qu'on lui donne. Il s'aperçoit qu'on lui fait passer... on lui dort un peu la pilule, quoi, pour le dire platement. On lui fait prendre des vessies pour des lanternes, et donc il désapprend le mensonge. Il chasse le mensonge qui l'investit, qui l'entoure, et il essaye avec des pinceaux de lumière de percer ce brouillard. Quoi. Voilà, c'est un peu ça.
C'est une très belle formule. De manière, dans le roman, j'y trouve la résonance dans ces deux ou trois chapitres qui sont superbes, où l'enfant découvre qu'il y a une classe dans laquelle des enfants que l'on dit malades, mais qui en fait sont un peu retardés, sont formés par une institutrice, mais on les cache des autres. Oui. C'est venu comment cette parabole, cette métaphore?
Oh, ben c'est à moitié réel et à moitié inventé. Moi, je me souviens que dans le système pédagogique je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais ça doit encore se passer quelquefois, dans certains instituts, pour ne pas faire traîner, je dirais, les plus doués, on met un peu en quarantaine, comme ça, dans une classe spéciale, ceux qui traînent un peu la patte, et on les traite à leur rythme. Et ça peut apparaître comme une espèce de disgrâce, enfin, ou même de punition, que d'être envoyé là, comme on est envoyé au bagne, quoi, ou à l'île du diable. Et à cause d'un moment de forfanterie qu'il a commis, Julien, en quelque sorte, en est pénalisé, il en est sanctionné, puisqu'on l'envoie en exil dans cette classe d'en haut, qui paradoxalement est en haut plutôt qu'en bas.
Après qu'il l'ait découvert, donc il est un peu le Christophe Colomb de cette classe.
Oui, c'est ça, il l'a découverte, il a vendu la mèche.
Voilà, c'est pour ça qu'il est puni.
Il a vendu le poteau rose, et comme c'est un peu un problème tabou dans l'école, et que surtout il ne fallait pas découvrir la chose... Eh bien, le plus sûr moyen de l'éloigner, c'est encore de l'y envoyer. Mais il y a un retournement de situation dont je m'amuse assez personnellement, c'est que loin d'y vivre un déclin ou une catastrophe ou une espèce de châtiment tombé du ciel comme ça et qui l'écraserait, il est beaucoup plus à l'aise avec les élèves de la classe d'en haut que ceux d'en bas, puisque ce sont des êtres à la limite plus proches des choses, plus naturels, plus sauvage dans le premier sens du terme, plus ensauvagé en quelque sorte, moins docile. plus rebelle, et ça lui convient très bien, parce qu'il est lui-même comme ça. Il se sent un peu comme un petit enfant de l'idiot de Dostoïevski, quoi, je dirais. Il en a un peu l'innocence et la fausse innocence. Et donc, à la limite, il barbote là-haut, comme un poisson dans l'eau. Et alors, malheureusement, comme on estime qu'il a expié sa peine, on va le rechercher, et ça, c'est un véritable déchirement.
Et c'est la fin du roman. C'est là que se termine l'Inde ou l'Amérique. C'est celui dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Alors un autre élément dans cette fois-ci dans le déroulement de l'intrigue romanesque, parce que le livre se lit, comme il y a une histoire, l'histoire se lit, oui. Se déroule. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que le moment où la directrice de l'école ou l'institutrice principale découvre qu'on a trahi, oui. Et qu'on a découvert son secret, c'est un simulacre de tribunal, ou c'est un tribunal pour, oui. Enfants. Oui. Alors là aussi, est-ce que finalement l'enfance, ne pourrait-on pas dire à partir de là, mm-hmm. que l'enfance est une sorte en miniature, oui. de prémonition de la vie, et en particulier de la vôtre.
Je crois que la pédagogie singe la réalité adulte, la miniaturise, la reproduit comme ça, de façon infantile, c'est le cas de le dire, parfaitement puérile. Et c'est comme si on voulait habituer les futurs justiciables que nous sommes devant l'Éternel à des procédures qui vont nous accompagner toute notre vie. Et la métaphore, enfin la parabole de la mise en procès, un enfant se sent très vite mis en procès. Dès qu'on l'inculpe de quelque chose, comme il est encore mal, il n'est pas prémuni, il n'est pas encore vraiment, ses armes ne sont pas fourbies pour guerroyer avec ça. Il le subit un peu comme une espèce de procédure très culpabilisatrice, et imagine facilement que tout un procès s'organise à ses dépens. Et j'ai connu des systèmes pédagogiques où ça fonctionnait absolument comme ça, où chacun devait répondre une fois par semaine de ses fautes devant l'assemblée des autres et se faisait juger par ses pairs. Prétendument, c'était un système très moderniste et très à la pointe. Je ne sais pas ce qu'il en reste aujourd'hui.
C'est très cruel.
Mais c'est très cruel, oui. C'est d'une férocité, c'est très barbare en fait. Et je crois que ça pourrait laisser des lésions durables. Ça peut créer des sentiments de culpabilité pour la vie, un truc pareil. Oui. Et je crois que malheureusement, on en a usé. Mais que c'est, à force de vouloir imiter ce qu'on appelle de façon pompeuse l'école de la vie, c'est le genre d'aberration dans laquelle on peut sombrer.
Est-ce que vous avez le sentiment, en écrivant ce roman, c'est-à-dire en consacrant votre premier roman à raconter l'enfance, en grande partie avec une inspiration autobiographique, que l'enfance est finalement la première des histoires avec un grand H que le roman peut aborder?
Je vais même vous faire une confidence étrange. Quand j'ai écrit L'Inde ou l'Amérique, et la suite d'ailleurs, je voulais, quand j'avais 18 ans en fait, et je ne voulais écrire qu'un seul livre, et qui serait l'enfance, parce que, et c'est presque un peu à psychanalyser, je pensais que l'enfance terminée, la vie ordinaire commençait, et que ça n'aurait de toute manière aucun intérêt. Que l'essentiel avait été vécu, que c'est l'essentiel dont il fallait rendre compte, que la petite recherche du temps perdu que j'entreprenais devait finir avec la fin de l'enfance, qu'après ça, il n'y aurait plus que la banalité d'une vie d'adulte avec des études universitaires, un engagement dans la société, que je ne comptais pas du tout mépriser et où probablement je ferais ma place. Et ce n'est peut-être pas sans susciter pas mal d'intérêt, de curiosité. Simplement, la littérature était terminée. La littérature, pour moi et l'enfance, c'était partie liée et il n'y avait pas d'au-delà à ça. C'est une idée complètement ahurissante que j'avais, et je voulais me débarrasser de la littérature en un seul livre. Et alors là où on m'a piégé, on m'a pris à mon propre piège plus exactement, c'est que je suis tombé sur un éditeur de génie qui est Jean Cayrol, qui à certains égards est devenu, pour la vie d'ailleurs, et ce n'est pas vrai, c'est encore vrai après sa mort, survenu il y a 2 ans maintenant. C'était un homme qui, à tous les égards, si vous voulez, était celui que je devais rencontrer pour écrire et pour penser, puisqu'il revenait de Motozen. Et quand j'ai commencé mes études de droit, j'ai aussitôt envisagé de faire une thèse sur le génocide, sur la Shoah, etc. Et que forcément, avec Cayrol, des rapports se sont installés sur ce plan-là aussi. Mais c'est Cayrol qui a mis fin à l'Inde ou l'Amérique, parce qu'il sentait que j'étais de nouveau embarqué pour un livre interminable, une tapisserie de Pénélope comme ça, que je détricoterais la nuit pour pouvoir la poursuivre le lendemain. Et un beau jour, n'ayant plus de nouvelles de lui, je dis, et voilà, est-ce que vous avez lu mon dernier chapitre? Oui, tout à fait, d'ailleurs, le livre est chez l'imprimeur. Et je dis, comment ça, il est chez l'imprimeur? Mais il n'est pas terminé. Si, si, je vous assure qu'il l'est. Mais je dis, bah, écoutez, il n'en est pas question. Enfin, moi, écoutez, il dit, ça se passait au téléphone. Vous êtes l'écrivain, je suis l'éditeur. Vous connaissez très bien votre métier, d'ores et déjà, mais je connais le mien. Et je peux vous jurer que ce livre-là est terminé. Maintenant, écrivez vos 20 ans après vos 3 mousquetaires. Je vous y engage immédiatement, mettez-vous au travail, mais je vous assure que pour les 3 mousquetaires, c'est terminé. Et j'ai été très troublé par ce comportement, et je sais qu'un jour, j'aurai ma revanche, et que finalement, les 3 livres paraîtraient en un. Ce n'est pas une revanche au sens strict du terme prise contre Kerol, mais j'aime bien que le livre soit apparu sous ces deux espèces, quoi.